Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, votre émission du midi sur Boulevard 102.1. Il est présentement 13h06. Pour ceux qui veulent aller passer l'Halloween ce soir avec leurs enfants, ben ça va être de la pluie parfois forte, 20 à 30 mm de pluie. Mais là, elle se dégage un peu, Pascal, c'est vrai.
Oui, puis même s'il pleut, s'il vous plaît, parapluie, tout ça, je vous jure, on est prêts à vous recevoir.
J'ai des bonbons à la tonne à la maison. Faut que j'y distribue. Sinon, je vais trop en manger puis je vais engraisser.
Bien, c'est une de mes journées préférées et je n'ai pas d'enfant, hein, rappelons-le. Donc, si vous pouvez passer à la maison, je vous donne des bonbons. Vite de même, ça semble louche, mais je vous jure que ça ne l'est pas.
Non.
Vendredi en plus, c'est fun. Ça. Demain, on dort si jamais vous pouvez. Je sais qu'ils ont des activités puis tout ça, les enfants, mais quand même.
Ouais. Mon garçon travaille à 8 heures. Il va falloir que je lui fasse un lift.
Bon, que tu te lèves.
Mais après ça, écoute, il travaille toute la journée. Je peux peut-être faire une sieste dans l'après-midi. Pascal, on arrive à un moment charnière de cette campagne électorale, c'est-à-dire la fin, parce que c'est les élections municipales dimanche. Et pour parler d'élections municipales, on a invité des amis qui l'ont suivi pas à peu près, la campagne électorale. Alors, Émilie Pelletier du Soleil, qui est avec nous, journaliste en politique municipale. Comment ça va, Émilie?
Ça va bien, merci de nous recevoir.
Ça va bien, merci à vous d'être là. Et Stéphanie Martin, également journaliste pour le Journal de Québec, qui est sur le beat de la politique municipale. Stéphanie, ça va bien?
Oui, ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Et on a Irénée Rutema, qui est notre chroniqueur politique que vous entendez à chaque semaine, qui est présentement bien installé chez eux, puis on l'a par Zoom. Comment ça va, Irénée?
Ça va bien, merci. Merci de l'invitation et salutations à tout le monde.
Ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Écoutez, on est vraiment très heureux de vous avoir pour cette table ronde fin de campagne municipale. On le rappelle en même temps que dimanche 2 novembre, à compter de 19h30, vous pourrez suivre les élections municipales sur Boulevard 102.1. On sera également diffusé au 99.5 Montréal, donc avec notre collègue Alex Laramé qui sera là, dans les différents rendez-vous là-bas à Montréal. Pascal Cévé qui s'est fait déjà deux amis avec Émilie et Stéphanie. Vous allez être à Bruno Marchand. On a Mathias qui va se promener entre Leadership Québec puis Respect Citoyen. Antonine Farnel et Max Larouche seront en studio avec moi. Bref, une belle équipe. On va avoir du fun. On mange la pizza avant, Pascal, tu savais?
Ben, c'est un peu comme l'habitude là, aux élections. Ça, quand on travaille en équipe comme ça, il y a souvent une petite bière après, puis il y a souvent un petit lunch avant. Parce que ça reste une grosse soirée. On veut être vos yeux, vos oreilles, être là pour livrer finalement ce qui va se passer réellement ce soir-là.
Exactement. Je commence avec cette question-là pour vous, mesdames et messieurs. Bruno Marchand, dernier sondage qui est sorti, c'est vendredi dernier, commandé par Respect Citoyen. C'est Novo TV qui avait sorti l'information. Toujours 40% dans les intentions de vote pour Bruno Marchand, 20% pour Stéphane Lachance, 14% pour Sam Ahmad. Selon vous, est-ce que Bruno Marchand a encore cette avance à ce moment-ci? Émilie, je t'écoute.
Difficile à dire parce que je pense que les derniers jours, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a une espèce de sprint final qui s'est entamé. Il y a beaucoup de partis qui ont fait d'ultimes propositions. Mais quand même, j'estime que selon la tendance qu'on a pu voir tout au long de la campagne électorale, le maire sortant a été constamment dans une montée dans les intentions de vote. Je ne vois pas à ce stade-ci pourquoi la tendance serait renversée. Non.
Stéphanie, analyse-tu la chose de la même façon?
Oui, effectivement. Au municipal, les tendances sont généralement fortes et se maintiennent. Oui. C'est ce qu'on a vu lors des élections il y a 4 ans. On avait vu Bruno Marchand remonter de façon constante et coiffer son adversaire à la ligne d'arrivée. Donc, dans la dernière semaine ou les deux dernières semaines, je ne vois pas de gaffe majeure de sa campagne. Il a continué avec son plan de match. Donc, si la tendance se maintient, on devrait voir ce genre de chiffres à l'arrivée, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Exactement. Irénée, comment tu analyses le tout de ton côté?
Je suis d'accord avec Stéphanie et Émilie. Pour le moment, M. Marchand a eu une très, très belle campagne, presque pas d'accident, à part l'histoire de M. Weiser, là, qui a été réglée rapidement. Et comme je le dis en riant avec des amis, vu qu'il est en amour, il aurait pu aller à Milan ou à Venise et revenir dimanche, là, Alors donc, je pense que ça va bien pour lui.
Oui, ça va très bien. Irénée trouve que le maire, tu sais, rayonne, il est en amour.
Ben oui.
Il parle positivement, la vie est belle. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Ben c'est sûr qu'officiellement, il est beaucoup plus heureux qu'en début de campagne.
Ben, oui.
Il pensait que ça allait être plus agressif, plus difficile, c'est certain. T'sais, on ramenait des bonnes têtes de la politique avec des CV que certains peuvent contredire, mais qui existent quand même sur une trame sonore qui est crédible. Et officiellement, ils se sont tellement plantés entre eux. On connaît l'histoire là, de la campagne électorale que ça a laissé beaucoup de place à Bruno Marchand pour pas trop faire de bruit, mm-hmm. pas trop faire de frasques, puis les laisser finalement diminuer au sondage. Hier, on l'avait en entrevue. Moi, j'aimerais entendre nos collaborateurs là-dessus, Jeff, sur le fait qu'il dit « Je ne veux pas prendre pour acquis ».
Oui, c'est vrai. Il dit qu'il veut rien prendre pour acquis. Je pense que c'est la bonne posture, puis je vais commencer avec Irénée. C'est la bonne posture à avoir du côté de Bruno
Mais
Marchand.
Mais est-ce qu'elle est honnête ou juste politique
oui,
aussi?
Oui, il doit faire preuve d'humilité parce que quand il est sorti pour demander une majorité, il y a des gens qui ont senti qu'il était peut-être un peu arrogant. Alors donc, il doit faire preuve d'humilité parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc, ça serait ça ma réflexion.
C'est un positionnement qu'il a pris hein, sur le positivisme depuis quelque temps.
Oui.
Là. On voit vraiment qu'il a voulu se démarquer des frasques, justement, de ses adversaires, leurs affrontements internes, et de se présenter comme étant la vision d'avenir et aussi le point de vue positif de la mm-hmm. chose. Avancer dans le positivisme versus les freins, le retour en arrière et le négativisme. Il l'a encore répété aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'à chaque sondage, il a toujours dit « je ne tiens rien pour acquis ».
Est-ce une stratégie ou est-ce sincère? Point d'interrogation.
T'en penses quoi, Émilie?
Bien, difficile à dire, hein, parce qu'effectivement, comme Irénée le dit, lorsqu'il est sorti pour en appeler à une majorité, ça a été critiqué de la part mm-hmm. de ses adversaires. Ça a été vu comme peut-être un excès de confiance et tout. Pour ce qui est du reste, je pense que ça peut lui servir d'agir de la manière dont il agit présentement. Comme Stéphanie dit, il a tout le loisir d'être positif puis de laisser les autres s'entre-déchirer entre eux. Je ne crois pas que ce soit qu'il ait besoin finalement d'en faire plus. Et selon ce qu'il a dit encore ce matin lorsqu'il dressait le bilan de sa campagne électorale, il dit « les gens sur le terrain nous disent qu'ils veulent du positif, que c'est une vision, c'est une approche qui leur plaît davantage que justement les déchirures, les chicanes, tout ça. » Donc, je pense que à travers tout ça, il ne sent pas le besoin d'en faire vraiment davantage.
Non, puis ça ne pogne pas beaucoup au Québec. On n'a qu'à regarder avec le Parti conservateur du Canada cette fameuse politique-là chicane. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui nous attire.
Mais rappelons-nous qu'en fin de mandat pour Bruno Marchand, il y avait quand même des gens qui lui reprochaient le fait d'être un petit peu aigri, d'être un peu ferme et de ne pas répondre à toutes les questions, d'être dans une politique de justification et non d'explication hein, ou d'ouverture mm-hmm. face à certaines politiques que lui faisait. Il y en a qui se demandent si le naturel ne va pas revenir au galop si jamais il est réélu.
Mais en campagne électorale, il y en a qui ont fait pire que lui. Donc, je pense que ça a pu lui servir,
ben,
ça aussi. Je veux dire, il y a des médias qui ont été exclus de certaines conférences de presse.
C'est ça. Parlant de pire, je pense que l'accident de voiture, on dit toujours qu'il se passe à un événement, à un moment donné, quelqu'un frappe le mur en campagne électorale et ça dégringole. Mais c'est arrivé entre deux candidats à la mairie. On écoute un extrait.
Je vous annonce que ce matin, nous avons déposé une plainte officielle au DGEQ de Québec contre Leadership Québec, contre M. Sam Hamad et contre M. Benoît Savard, qui est un organisateur ou un collaborateur de Leadership Québec, qui m'a été présenté lors de la fameuse discussion comme étant un représentant du parti. C'est pas acceptable que M. Hamad se promène dans tous les bulletins de nouvelles prime time à grande écoute pour diffuser des mensonges et qu'il n'y ait pas aucune répercussion.
Stéphanie, quand on regarde ça, Bruno Marchand est à 29 % des intentions de vote à ce moment-là. Coltaillage entre Respect citoyen et Leadership Québec et boum, 3 jours plus tard, sondage 40 % Bruno Marchand. Si Bruno Marchand, majorité au conseil de ville, va falloir penser à cette chicane-là.
Ça a cristallisé les choses, assurément. Il y avait un potentiel d'alliance qui a complètement avorté, ce qui fait en sorte que les déchirements, la division du vote qu'on voyait venir dès le début, s'est cristallisé à ce moment-là et ça a été comme un point de non-retour à ce moment-là pour toute alliance, toute possibilité que ces deux parties-là en viennent à une entente. Donc, à partir du moment où les deux adversaires principaux vont continuer de se diviser les votes et puis démontrent sur la place publique un affrontement aussi grave parce que M. Hamad est revenu par la suite en lui aussi disant qu'il va prendre à témoin le directeur général des élections dans cette affaire-là. Donc, c'est un point de non-retour, assurément.
En plein ça. Puis quand tu dis que ça a cristallisé, tu as tellement raison, parce que depuis ce temps-là, dans les sondages, Stéphane Lachance est bloqué à 20% puis sa maman est bloquée à 14%. Fait que les partisans d'Hamad sont restés là, les partisans de Lachance sont restés là, puis pendant ce temps-là, les indécis ont fait quoi? Ils ont dit, ben, on va aller pour Bruno Marchand, finalement. Les enfants chicaneront ensemble.
Puis même ceux qui voulaient voter Hamad ou Lachance, ben, en fait, entre eux, ça s'auto-grugeait certains votes là, selon l'attitude du chef des partis.
Irénée, c'est vraiment le point de non-retour ou le point, je dirais, de lancement de Bruno Marchand. Puis hier, en entrevue avec nous, il a été très honnête pour dire oh, « oui, ça m'a aidé, là, leur chicane. »
Non, écoutez, c'était un moment vraiment étrange. Et donc, les deux partis, les deux chefs, donc M. Marchand, pas M. Marchand, mais M. Hamad, et M. Lachance ont manqué vraiment de jugement. Ce que je déplore comme chroniqueur politique, mais surtout comme citoyen, c'est que cet événement-là a duré une semaine. Donc, ils ont kidnappé la campagne des maîtres de citoyens pendant une semaine.
Mais ils ne l'ont pas kidnappé de façon positive pour eux autres.
Oui, donc, mais M. Marchand était content parce que, pour lui, ça a été encore très facile de voir ses deux adversaires principaux se chicaner, se quereller et porter plainte au directeur général des élections. M. Hamad l'a fait, M. Lachance l'a fait aussi. Donc, c'était vraiment déplorable.
Émilie, ça en est suivi après ça certaines informations qui sont sorties sur Stéphane Lachance, dont tu as fait partie justement. Les fameux tickets non payés, les loyers non payés, il y avait eu les taxes non payées au début. Puis là, ben Stéphane Lachance s'est mis à faire du Bruno Marchand qui choix Radio X, c'est-à-dire à choisir ses médias. Et là, on le voit pas dans cette dernière semaine de campagne-là. T'en penses quoi de cette stratégie-là? Puis après ça, je vais entendre tes collègues aussi là-dessus.
Bien, nous, c'est sûr qu'on a fait partie des médias qui ont été exclus, notamment aux côtés de Radio-Canada. Je sais que le Journal de Québec n'avait pas été convié à une certaine conférence de presse au lendemain, finalement, de la parution. Bien, le jour même, finalement, le matin même de la parution là, de ce texte-là dans Le Soleil qui mentionnait le dossier de conduite de M. Lachance. Moi, en toute honnêteté, cette journée-là, j'ai appelé l'équipe et j'ai mentionné que je pensais pas que c'était une stratégie qui pouvait servir, notamment l'intérêt public. En tant que journaliste, on est supposé défendre. Son absence dans la dernière semaine, en fait, il a quand même convoqué lundi hein, pour présenter son plan de mobilité. Bien sûr, lui n'est pas demeuré longtemps sur place. Il a évoqué qu'il avait des rencontres avec des commerçants, bon, etc. Après ça, à lui de le justifier, mais je l'interprète par cette série, justement, de mauvaises nouvelles qui lui sont un peu tombé dessus et où j'ai l'impression qu'il y avait de la misère à se dépêtrer à travers tout ça, à fournir des explications qui étaient dignes de ce nom et qu'en ce sens-là, je pense qu'il a jugé, lui et son équipe, que son absence pouvait davantage leur être bénéfique que d'essayer d'alimenter finalement le narratif.
Mais Stéphanie, est-ce qu'on peut vraiment aspirer à la mairie s'il faut se cacher dans la dernière semaine?
Bien, c'est une chose qu'il a beaucoup affirmé à l'effet qu'il serait une personne, un élu transparent. On peut questionner là, cette façon de faire. Il a visiblement choisi de se replier vers sa base. Je le voyais hier dans un rassemblement partisan où il décriait le traitement que les médias lui accordent. Donc, c'est clairement un repli vers la base en espérant que ça ne fasse pas trop de vagues. Puis effectivement, là, pour éviter de répondre aux éléments qui sont
moins... D'ailleurs, Stéphane Lachance avait été invité sur nos ondes ce matin. Il a décliné l'invitation, mais il était à Choix Radio X. Donc, il était avec sa base.
Bien, puis j'ai l'impression que le fait de ne pas en parler, ça lui donne peut-être l'impression aussi qu'il ne l'alimente pas et si lui ne répond pas de ça, bien à un moment donné, une nouvelle négative à son sujet finit par mourir d'elle-même.
Il y a des gens qui vont devoir travailler ensemble pareil dans les prochaines années ici à
ben
Québec,
oui.
À la mairie. Donc, si la tendance se maintient, Bruno Marchand sera réélu, tout peut changer. Dans l'opposition, on retrouvera Stéphane Lachance. Est-ce qu'il va être capable de remonter de cette campagne-là dans le visage public de ceux qui boycottent aussi actuellement pour essayer d'être une opposition forte, une opposition digne de ce nom-là? Parce qu'on s'attend à en avoir une aussi à Québec. Le mandat de Bruno Marchand, le dernier, n'a pas été de tout repos. Il nous faut un chien de garde aussi du côté de la mairie. Que ça se passe bien. Comment vous entrevoyez la situation à Québec, les trois collaborateurs, en fait, pour la suite des choses en termes de politique municipale?
Irénée, on commencera avec toi.
Oui, alors donc, avant, je voulais revenir sur, je pense que c'est Stéphanie qui parlait de la stratégie de l'évitement. Et ça, je mets ça sur la faute de M. Lachance et son inexpérience politique. Avant, c'était un activiste anti-tramway. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand il a commencé sa campagne, il était en colère contre les médias parce que les médias ne suivaient pas sa campagne. Après ça, il a une semaine presque sans faute. Il y avait beaucoup de médias qui couvraient sa campagne. Par la suite, quand il a eu l'attention des médias, et je pense qu'il croyait que les médias, c'était les porte-parole de Respect Citoyen. Alors, en le questionnant, il s'est dit, mais ça n'a aucun sens. Il s'est replié. Et je le comprends parce que donc, je pense qu'il a beaucoup de squelettes dans son placard qui ne veut pas que les gens retrouvent...
Hey, Irénée, je saute à pieds joints là-dessus sur les squelettes dans le placard parce que j'avais une discussion avec plusieurs personnes ici hier dans les bureaux très animés positivement là, où il y a des gens qui disent « Ben là, à sortir tout ce qu'on sort sur Stéphane Lachance, ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus personne qui va se présenter aux élections. » Moi, je suis d'avis contraire. Je suis à me dire « Ben, si t'es vraiment une candidature crédible, t'as pas ces squelettes-là dans ton placard. Tu te situes où, toi? »
Mais moi, je trouve que, si tu souhaites te présenter en politique, je pense qu'il faut que tu aies une vie relativement exemplaire parce que si tu te lances en politique, c'est sûr qu'on va fouiller dans ton passé. Cela dit, c'est des choses qu'on va devoir étudier parce que vous voyez, M. Alex Boisselot, qui s'est présenté au Parti québécois, il avait des squelettes. Il a été transparent, il n'a rien nié et il a été réélu.
C'est la transparence, Irénée. C'est là la différence. C'est la transparence et c'est là que pour moi, tu es une candidature crédible quand tu es transparent. Tu perds énormément de crédibilité quand tu critiques les médias qui font leur travail.
Exactement, c'est ce que je pense aussi. Et vous vous rappelez, on avait eu Boisclair... 1.0 qui s'est présenté au Parti québécois. Il avait beaucoup de squelettes parce qu'il avait consommé de la cocaïne quand il était ministre. Mais les gens du Parti québécois ont décidé de lui donner un pardon. Il a été élu à la tête du Parti québécois. Alors donc, je pense que d'ici quelques semaines, on va devoir analyser cette campagne-là et les squelettes qui sont sortis des placards de différents candidats.
Je suis d'accord de mon côté avec la transparence, oui. Mais surtout l'imputabilité, je pense. Et je pense que c'est dans
c'est
ce
un
cas-ci.
Bon point.
En fait, je ne pense pas que M. Lachance se serait présenté en disant « Écoutez, j'ai eu des arrérages dans l'acquittement de mes comptes de taxes municipaux du côté de Lévis. » Ça aurait été très transparent, mais ça aurait été quand même très étonnant. J'ai jamais vu un candidat qui aurait fait ça. C'est pas le genre de choses qu'on crie sur tous les toits. Par contre, une fois que ça sort, encore faut-il être capable d'en prendre la responsabilité. Et dans le cas qui nous occupe, c'est... Il a été quand même rapide, le chef de Respect Citoyen, à toujours remettre la faute. La taxe municipale, c'est la faute d'une adjointe. Le dossier de conduite, moi, c'était pas...
Mais je fais beaucoup de route.
J'ai pas payé, j'étais en retard, mais c'était seulement sur certains. Il y a des paiements. Bon.
Le loyer, c'est à cause de la COVID.
Il y avait toujours des raisons. Et donc, je pense qu'en tant qu'aspirant à la mairie, je pense qu'on est en droit de s'attendre aussi à des candidats qui sont imputables.
Stéphanie, je te passe le relais pour en même temps
oui,
sur la question de Pascal. Exactement, qui mentionnait, bon, au niveau de chef de l'opposition, peut-être je rajouterai un élément à la question de Pascal. Est-ce que Stéphane Lachance s'est vraiment positionné en chef d'opposition crédible? Il va-t-il être crédible s'il est le chef de l'opposition?
Ouais. Parce que disons qu'on prend les choses comme elles sont présentées dans les derniers sondages. Bon, on a dit plusieurs fois, ça peut changer, mais disons qu'on y va comme ça. La course intéressante, ce sera justement la course au deuxième. Et donc, qui sera le chef de l'opposition? Sauf que M. Hamad n'a pas pris de colistier. Donc, lui, c'est maire ou rien. M. Lachance a pris un colistier, lui, dans Val-Bélair. Alors, pour qu'il puisse siéger s'il est défait à la mairie, son colistier doit être élu dans Val-Bélair. Et là, d'où l'importance de la course à Val-Bélair, parce que ça peut faire entrer un chef au sein du conseil municipal. Donc, en principe, si le colistier de M. Lachance n'accède pas à son poste de conseiller, il ne pourra pas donner son siège à M. Lachance. Donc, il y a une possibilité que M. Lachance ne puisse pas siéger au conseil, de toute façon. Donc, il n'y a rien qui empêche d'avoir un chef extérieur au conseil, ça s'est déjà vu. Mais alors là, l'opposition se dessine dans les districts et, mm-hmm. et ça va devenir intéressant, les
en
courses.
Effet. T'as entièrement raison. Avant de passer à vos prédictions pour dimanche, on écoute Bruno Marchand par rapport au fameux tramway.
Pas eu de référendum, mais il y a une consultation qui s'appelle une élection. Là. À la dernière élection en 2021, il y avait 5 partis, 4 partis pro-tramway qui ont ramassé la majorité des votes. Les gens, s'ils avaient voté pour Québec 21, les gens de Québec 21 proposaient de ne pas faire de tramway et ils ont eu une minorité de vote. Alors, c'est une forme de consultation. N'oubliez pas là, que faire un référendum, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de référendum, s'ils perdaient le référendum, ils diraient que ça en prendrait un deuxième. Ils diraient que ça n'a pas été la bonne question. Ils diraient qu'il n'y avait pas toutes les bonnes informations. Ça ne finit jamais. Mm-hmm.
Ça ne finit jamais. Ça finit-tu le 2 novembre si Bruno marche à la majorité?
Ben, tu vois, c'est exactement ça que je m'étais préparée à répondre. Par expérience, c'est jamais vraiment clos, ce dossier-là.
Non, c'est ça.
Les adversaires du projet vont toujours dire « on n'a pas été consulté. On n'a pas été consulté de la bonne façon. C'est pas la bonne question qui a été posée. Ça a été dans une élection, mais telle personne ne s'était pas prononcée de la bonne façon. » Bref, les adversaires seront toujours des adversaires. Moi, ce que je veux qu'on note, puis ça a peut-être un peu passé sous le radar cette semaine, mais il semble que les trois principaux partis actuellement dans la course proposent tous un mode de transport lourd.
Et oui.
Je m'explique, cette semaine, le parti de M. Lachance, par le biais d'un de ses candidats, a exprimé que si leur modèle qu'ils veulent implanter démontre qu'il faut un modèle de transport lourd, ils iront de l'avant. Donc, M. Lachance a passé des semaines et des semaines à dire que pour lui, il n'y en aura pas, contrairement à ses adversaires, alors que là, cette semaine, la donne a un peu changé.
Oui, puis il l'avait dit, il y a deux semaines, sur nos zones aussi, quand je lui avais dit, « Ouais, mais là, on va arriver à 1 million de personnes. Vous pensez vraiment gérer ça avec des autobus? » Et sa réponse avait été de dire, « Ouais, mais nous, la différence, c'est qu'on va consulter les gens. » Mais c'est parce qu'il va être trop tard.
Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que tout le monde, là, les principaux... en fait, tous les partis maintenant sont en faveur d'un mode de transport lourd, ce qui est un débat qui est infini à Québec. Bon, maintenant, c'est le mode qui peut varier selon les partis, mais on s'entend tous, on dirait, politiquement, là-dessus.
En effet. Émilie, c'est-tu fini, là, le tramway, après le 2 novembre?
Moi, je suis d'accord que c'est... Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début, là. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu,
pourquoi
mais franchement...
Pourquoi vous me découragez de même, là?
Non, mais...
J'ai le goût d'avoir des discussions sur d'autres idées. Sur le développement de la ville de Québec. Pourquoi vous me découragez comme
moi,
ça?
Moi, je pense que tant et aussi longtemps que le tramway ne roulera pas dans les rues, on en entendra sans cesse parler. Et pour prouver ça, le maire sortant l'évoque souvent. Hein. Dans d'autres villes, c'est également le même scénario qui s'est présenté à toutes les fois. Il dit que ce genre de projet majeur et structurant de transport, lorsqu'ils ne sont pas en service, font les frais d'une base d'opposition très vocale, très présente, parce que avant que le moyen de transport entre en service, on ne connaît que les inconvénients de ces projets-là.
Les travaux,
les chantiers, l'abattage d'armes nécessaires, les
expropriations.
Exact. Donc, mais à un moment donné, selon l'expérience de d'autres villes ailleurs dans le monde, c'est que lorsque les gens commencent à l'expérimenter, mm-hmm. ils peuvent l'essayer, il semble que finalement la vague s'inverse et bon, il y a davantage de gens qui y adhèrent. Donc, est-ce qu'il va falloir attendre que le tramway roule dans les rues pour cesser d'en entendre parler?
Ce mandat-là s'annonce difficile parce que les 4 prochaines années, on sera dans la construction.
Ça va être les travaux.
Oui,
ça risque de faire mal à Bruno Marchand.
En 2033.
En effet. Alors qu'il va devoir aller en campagne électorale avec les travaux du tramway. Irénée, je t'ai vu faire oui, donc je considère que tu es d'accord avec tes deux collègues. Alors, je te lance sur la dernière question de cette belle table ronde et merci beaucoup en passant d'y participer. Bruno Marchand, majoritaire ou non le 2 novembre?
Bruno Marchand, je pense qu'il est, Il gagne la mairie, ça c'est certain. Est-ce qu'il va gagner une majorité? Je ne peux pas me risquer. J'ai parlé aux gens dans son équipe qui ne veulent pas répondre à la question, qui me disent au moment, aujourd'hui, on ne va pas prédire. Cela dit, il y a 2 semaines, j'avais parlé avec quelqu'un qui est proche de Marchand. Donc, on s'était rencontrés avant l'élection au mois d'avril. La personne m'avait indiqué qu'il s'en allait vers une victoire à la mairie, mais minoritaire. J'ai revu la même personne à la mi-mandat qui me disait que peut-être ils entrevoyaient une majorité. Alors, je ne peux pas répondre à la question, sauf que M. Bruno Marchand va être notre prochain maire. Là. J'espère que c'est ce que je crois, là, vu les sondages, vu le contexte politique dans lequel nous sommes.
Moi, je me mouille. Je pense qu'il y a assez fait de gains dans les arrondissements pour être majoritaire. Donc, c'est ma prédiction, Stéphanie?
Moi, je ne fais jamais de prédiction. Au bureau, à chaque élection, on a des poules. Puis je n'embarque pas dans les poules? Non, je ne sais pas. C'est une espèce de superstition, on dirait. J'ose pas me prononcer. Ouais. J'aime mieux observer le résultat.
Mais je pense aussi que l'histoire de 2021 nous a appris que c'était peut-être hasardeux de faire des prédictions. Tout peut revirer. Hein. Il y a eu le vote par anticipation, il y a le vote le jour du vote, le jour du scrutin. Donc, ça peut changer bien des choses. Mais c'est sûr que, bon, dans les derniers sondages, il y a quand même des sondeurs qui se sont avancés à dire que M. Marchand se dirigeait vers une réélection, donc un peu comme le pense Irénée. Par ailleurs, est-ce qu'il y a quand même... C'est à peu près moitié-moitié hein, pour les gens qui était satisfait versus insatisfait de son travail. Donc, il faudra voir comment ça va ressortir. Est-ce que les gens vont préférer avoir des espèces de chiens de garde, justement, dans les districts, dire, ben oui, je souhaite que M. Marchand soit toujours notre maire, mais on souhaite quand même qu'il y ait une opposition forte à l'hôtel de ville. Peut-être aussi, mais moi aussi, je vais me garder.
Pascal Cévé, le mot de la fin te revient.
Ah, moi, tu le sais, hein, je martèle une chose, par exemple. Donc. C'est que ce qu'on a connu comme point faible de Bruno Marchand ne revienne pas dans un second mandat. Souvent, en campagne électorale, on voit des politiciens qui sont très conscients de leurs faiblesses, qui, pas sans excuses, mais les expliquent et tentent de les ajuster. Ensuite, ils sont réélus, puis le naturel revient au galop. Puis je veux pas pointer M. Marchand. Je pointe n'importe quel politicien qui se fait réélire et qu'en campagne électorale, il y a un changement de ton qui s'est produit. Mais Québec a besoin d'une opposition, c'est sûr. Québec a besoin d'un maire à l'écoute. Puis assurément qu'on va devoir tous et chacun se serrer les coudes. Donc, je pense que la suite, Jeff, sera d'autant plus intéressante que la campagne.
Je suis très d'accord.
Puis le mot de la fin, là, je pense que c'est qu'on reste très près de nos enjeux. Qu'on n'en décolle jamais et qu'on se désintéresse jamais. Même si certains de ces enjeux-là, soit le tramway, reviennent trop souvent dans notre vie.
Et sont redondants. Oui, on a une belle démocratie municipale là, à Québec, il n'y a pas de doute. Les gens de Montréal nous envient énormément. Émilie, Stéphanie, Irénée, merci beaucoup pour cette table ronde. C'était vraiment, vraiment intéressant de faire le tour de la campagne électorale avec
vous.
Allez voter. Oui, allez voter. 2 novembre, prenez votre destinée en main et allez voter. Parlant de Montréal, Pascal Cévé, c'est Lambert Drainville qui s'en vient en ondes avec nous. Il y a eu une entrevue exclusive avec Christian Dubé.
Et qu'on entend.
Ministre de la Santé.
Ça.
Qu'est-ce qu'il a dit, Christian Dubé, à Lambert Drainville?
Ouais. Je ne vais pas juste parler de l'humain.
Non.
Mais ça brasse, là.
Ça brasse énormément. C'est immédiatement après la pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On en jase.